François Torres, bonjour.
Bonjour.
Alors André Malraux disait de la Chine qu'elle était l'autre pôle de l'expérience humaine. Alors en quoi les Chinois sont-ils différents de nous ?
Les Chinois sont certes différents de nous, mais ils ont beaucoup, d'abord beaucoup de points de grande ressemblance avec nous. En particulier, ce sont des gens qui, comme nous, ont des ambitions professionnelles. Ils ont besoin d'être assurés par leur famille. Ils ont aussi envie de parfois de se venger, ils ont des rivalités professionnelles, etc. Donc sur ce plan-là, de la vie quotidienne, de l'expérience professionnelle, les Chinois sont très proches de nous. Mais en même temps, comme leur arrière-plan métaphysique est extrêmement différent du nôtre, ils ont un rapport au temps... Et au dogme, à la religion, qui est extrêmement différent d'une autre. Pour faire simple, évidemment, les choses sont plus complexes puisque on trouve dans l'arrière-plan occidental et des philosophes qui sont très proches de la pensée chinoise, en particulier Héraclite ou Spinoza, etc. Mais dans leur conception du temps, pour un Chinois, pour le Yi Jing, pour les bouddhistes, les taoïstes, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et il n'y a de permanence que l'impermanence. Et la réalité se construit du battement des contraires. Alors que donc ça donne une notion de temps cyclique, très différente de la nôtre, alors que pour un esprit judéo-chrétien, le monde a été créé, il y a donc un début, et il aura une fin qui est l'apocalypse. Entre les deux, pour un occidental, il y a une sorte de flèche qui représente le temps et probablement le progrès. Alors que à tout ceci s'ajoute le fait que les occidentaux ont un arrière-plan religieux qui est monothéiste. Et je pense que le monothéisme pousse parfois au radicalisme, alors que la culture religieuse ou métaphysique chinoise pousse au compromis. Et donc, en ce sens-là, je pense en effet que les Chinois sont différents de nous.
Alors, il y a depuis longtemps en France une tentation de l'Orient, mais en Chine aussi, on peut constater qu'il y a aujourd'hui une tentation de l'Occident.
Oui, les Chinois sont en permanence... orienté vers l'image que propose l'Occident, c'est-à-dire essentiellement pour ce qui est de leur modernisation, et sans vouloir aller très loin dans l'histoire, le grand réformateur chinois Kang Youwei, qui était avant la chute de l'Empire dynastique et du système dynastique et qui s'est ensuite exilé, quand il est revenu en Chine en 1913, avait proposé d'adopter en Chine un système de monarchie constitutionnelle. Et donc, ça fait fort longtemps que la Chine qui est pourtant un système politique très ancien, ça fait fort longtemps que la Chine a, pour se moderniser, tenté de se... rapprocher de l'Occident et de se rapprocher des systèmes occidentaux. Alors c'est un sujet qui est actuellement extrêmement débattu en Chine, puisque un certain nombre d'hommes politiques voudraient ouvrir le système politique chinois, au moins pour qu'il ait quelques repères constitutionnels occidentaux, l'indépendance des assemblées, la possibilité pour les assemblées de critiquer les politiques publiques. Et bien sûr, il y a en face de cette tendance-là une résistance conservatrice qui considère que le système chinois avec donc la prévalence du Parti communiste, est le meilleur système possible pour la Chine.
Alors, du côté de l'Occident, nous avons des différences culturelles et religieuses, mais le système politique chinois, nous l'avons admiré beaucoup, notamment au XVIIIe siècle.
Oui, alors ça fait partie, je dirais, d'un certain nombre de malentendus. Et cette admiration a été diffusée par les philosophes des Lumières, de Voltaire en particulier, chez des philosophes allemands. Goethe a beaucoup admiré le système, mais c'était à l'époque où on tentait, où les philosophes des Lumières tentaient d'installer donc un contraste entre le système politique et la religion. Et ils avaient, interprété le travail des jésuites dans le sens qui les intéressait le plus, et ils avaient utilisé la Chine pour montrer que le système chinois, qui était un système en effet administratif extrêmement organisé, qui avait plus de 16 siècles d'ancienneté, alors que nous n'avons réussi, nous, en Occident et en particulier en France, à installer un système similaire qu'à l'époque de Napoléon, pensait qu'on pouvait, au travers de l'exemple chinois, diffuser l'idée d'un despote éclairé qui serait débarrassé de l'emprise religieuse. Il y avait là un malentendu dans le fait que le système impérial chinois était tout de même un système avec une connotation métaphysique lourde, puisque l'empereur, qui était inaccessible du commun des mortels, était considéré comme l'intercesseur entre le ciel et la terre. Donc, la vision des Occidentaux de la Chine de cette époque-là était biaisée.
Alors, revenons sur des choses historiques. On passe sur les guerres de l'opium, le sac du palais d'été, le pillage de Pékin au moment de la révolte des boxeurs, pour arriver à la chute de l'Empire chinois en 1911, qui fut un véritable séisme pour la Chine et qui vit la naissance du nationalisme chinois, qui n'a pas fini de faire parler de lui.
Oui, alors, la question du nationalisme chinois est une question qui est très intéressante parce qu'elle n'est pas très ancienne. Il existe un nationalisme, je dirais, impérial, qui est en fait une sorte de réminiscence d'empire qui se développe ou qui s'exprime actuellement, par exemple, à propos de la mer de Chine. Mais il existe aussi ce que j'appellerais un nationalisme qui est plus compréhensible par nous, un nationalisme territorial qui est celui de la Terre jaune, auquel d'ailleurs se raccroche beaucoup le président Xi Jinping actuellement. Et ce nationalisme territorial est né, je pense, après la chute de l'Empire en 1911, et lorsque, au traité de Versailles, en 1918, les possessions japonaises ont été attribuées au Japon. Et à ce moment-là est né un mouvement violemment nationaliste de jeunes Chinois qui a fini par déboucher d'ailleurs sur la naissance du Parti communiste chinois et qui est le mouvement du 4 mai 1919. Et vous avez des places du 4 mai où Seiyun, donc, dans toutes les villes de Chine, exactement comme il y a des places de la République ou des places du général de Gaulle un peu partout en France. Donc ce mouvement est un mouvement très fortement nationaliste, né d'une frustration qui, après les grandes conquêtes coloniales que la Chine a subies, alors qu'elle était à l'époque encore sous domination coloniale, le fait d'avoir attribué le Shandong, possession japonaise, la possession allemande au Japon, est quelque chose qui a très mal passé à ce moment-là en Chine et a provoqué, ou en tout cas a été un adjuvant assez considérable du nationalisme chinois.
Alors restons au XXe siècle, comment définir ce que vous aimez appeler le malentendu maoïste ?
Alors le malentendu maoïste, c'est une sorte de malentendu idéologique à une époque où une grande partie des intelligentsias européennes et françaises ont considéré que la Chine était en quelque sorte le véritable creuset du communisme mondial et après la prise de pouvoir par Mao en 1949, tandis que l'URSS de Staline était devenu un repoussoir. Et donc on avait imaginé que le communisme maoïste était en fait le véritable communisme mondial, en plus ancré dans quelque chose qui paraissait très sympathique, c'est-à-dire la révolte des paysans contre le pouvoir central qui s'est passé pendant toute la guerre civile chinoise contre les Japonais, surtout contre Chiang Kai-shek. Donc ça c'est donc un a priori favorable qui avait été attribué au maoïsme, mais on a oublié complètement toute une série d'effets pervers de ce maoïsme, puisque dans sa volonté de changer la Chine et de changer l'homme chinois, je dirais par la terreur, Mao a donné naissance à de considérables catastrophes en Chine qui ont été en permanence passées sous silence, surtout à l'époque en France de la période qui a précédé la reconnaissance de la Chine par le général de Gaulle en 1964. Lorsque le général de Gaulle reconnaît la Chine en 1964, celle-ci sort d'une catastrophe majeure qui était celle du Grand Bond en avant, qui a été récemment racontée par un auteur chinois, elle se préparait à rentrer dans une autre catastrophe qui était la révolution culturelle. Tout ça a été passé sous silence et le malentendu était à ce point-là considérable. C'est que tous les hommes politiques, les élites politiques françaises qui sont allées en Chine avant la reconnaissance, comme Edgar Faure, même François Mitterrand, plus tard André Malraux, n'ont pas vu ce qui se passait en Chine et sont revenus faisant des comptes rendus dans lesquels on n'apparaissait absolument pas la réalité du maoïsme. Et donc c'était un malentendu, et le malentendu allait assez loin lorsque, par exemple, le 1er septembre 1966, le général de Gaulle a prononcé son fameux discours de Phnom Penh. Il a mis en avant l'idée que si les Américains, là il avait raison, si les Américains quittaient, il fallait que les Américains quittent le Vietnam. Il les exhortait à quitter le Vietnam, il avait absolument raison, mais là où il avait tort, c'est qu'il disait que ça inciterait Mao à cesser son appui au mouvement communiste. Et là, il avait tort. Parce qu'au fond, toute la révolution culturelle a été en fait renforcée par le fait que Mao exprimer aussi son prosélytisme maoïsme dans toute l'Asie du Sud-Est, en particulier par exemple au Cambodge, où finalement, sous l'influence chinoise, les Khmers rouges ont installé un système qui était une sorte de concentré du grand bond en avant et de la révolution culturelle, avec une catastrophe majeure pour ce peuple qui ne s'est toujours pas remis. Et d'ailleurs, ce malentendu a été confirmé par Chiang Kai-shek au général Peshkov, qui était l'envoyé général de Gaulle, quand Peshkov est allé voir Chiang Kai-shek pour lui expliquer pourquoi la France allait reconnaître la Chine et abandonner Taïwan. Chiang Kai-shek lui a dit que la vision d'un donnant-donnant, c'est-à-dire que si les Américains arrêtent d'aller au Vietnam, arrêtent leur engagement au Vietnam, Mao arrêterait son appui au mouvement communiste d'Asie du Sud-Est, était faux, et là Chiang Kai-shek avait raison.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le journaliste et écrivain Tiziano Terzani, qui a vécu en Chine dans les années 80 et qui dit « Mao a fini par détruire la Chine »
Alors, là, si vous voulez, ce qui est assez intéressant dans cette affaire des relations du système politique chinois avec Mao, c'est que la Chine n'a pas procédé à une démaoïsation, mais malgré tout, elle a réussi sa démaoïsation, puisque actuellement, on est dans un système où il n'y a absolument plus rien de semblable et qui ne se rapproche absolument pas du tout l'idéologie maoïste. Alors que l'URSS a déstalinisé la Russie et finalement a raté sa déstalinisation. Et donc c'est assez ambigu le fait que, par exemple, vous avez toujours le tombeau de Mao sur la place Tiananmen et le portrait de Mao Zedong à l'entrée sud de la cité interdite est la preuve que les relations avec Mao sont très ambiguës. D'abord parce que Mao, pour beaucoup de Chinois, constitue toujours une référence importante qui a été la fin des humiliations qui ont quand même duré un siècle. Si on regarde les traités inégaux, les guerres de l'opium et l'invasion de la Chine, la crucifixion de la Chine, comme le dit Jacques Gernet, on a affaire à quelqu'un qui a redonné une certaine fierté à la Chine. C'est ce qu'a dit Mao le 1er octobre 1949 au balcon de la cité interdite. Et ça, les Chinois ne l'oublient pas. Ceci dit, il faut dire en effet que la volonté de Mao Tse-tung de changer la Chine et l'homme chinois par la terreur a laissé des traces considérables. Et le fait que le Parti communiste chinois lui-même continue à se méfier considérablement de Mao s'exprime par le fait que, tout en étant un régime très autoritaire qui, à l'époque, était totalitaire, on accorde que 70% dans l'appréciation positive de ce qu'a fait Mao pour la Chine. Et si dans un parti où, en général, l'approbation tourne autour de 90%, pour ne pas dire de 100%, on en arrive à 70%, on a en face de nous une situation où on est en face d'une situation où pratiquement le parti se méfie de Mao, tout en le gardant comme une sorte de symbole, parce qu'il sait très bien que il lui permettra d'avoir toujours une influence sur le peuple, parce que dans le peuple, Mao a toujours beaucoup beaucoup d'influence.
Donc les Américains ont véhiculé cette idée de dictature soluble dans le capitalisme en se disant que, ma foi, si les Chinois rentraient dans le grand marché mondial et devenaient capitalistes, eh bien, la dictature tomberait d'elle-même. En fait, on a vu qu'il n'en était rien.
Je pense que les Américains avaient surtout dans l'idée que la Chine, en se modernisant et en s'ouvrant, comme l'a fait Deng Xiaoping, mais il n'a tout de même pas... Deng Xiaoping est un personnage assez ambigu parce qu'il a tout de même nommé deux secrétaires généraux qui étaient des réformistes, c'était Hu Yaobang et Zhao Zeyang. Tous les deux ont ensuite été limogés par lui. Est-ce qu'il était trop vieux? Est-ce qu'il avait peur de l'ouverture? Est-ce qu'il avait compris qu'il fallait s'ouvrir politiquement et qu'ensuite cette ouverture a été bloquée par des conservateurs? C'est assez difficile à dire. Tout ça s'est passé à la fin des années 80. Deng Xiaoping commençait à être assez fatigué. Il était vieux. Était-il lui-même persuadé que l'ouverture politique se ferait, serait nécessaire ou pas, c'est très difficile à dire. Le fait est qu'il avait cette tentation-là, puisqu'il a lui-même nommé deux grands réformateurs, qui étaient Hu Yaobang et Zhao Zeyang. Je rappelle d'ailleurs que le réformateur Hu Yaobang avait prévu ce qui se passerait au Tibet, puisqu'il avait conseillé au système politique chinois, à l'époque où il était au pouvoir, il avait donc freiné la colonisation du Tibet par les Han, il avait obligé les fonctionnaires Han à apprendre le tibétain, et il avait bien compris que le Tibet pourrait poser un problème à terme. Il a été limogé, et c'est sa mort qui a provoqué le mouvement de Tiananmen. Mais après avoir été limogé, il a été remplacé par un autre réformateur qui, lui, a eu à faire face au mouvement de Tiananmen en 1989. Ce malentendu qui spéculait sur le fait que la Chine deviendrait forcément... un pays à tendance démocratique en se modernisant et surtout accepterait de s'intégrer dans le système mondial de l'après-guerre concocté par les pays occidentaux et en particulier par les Américains est un leurre qui aujourd'hui est très très évident puisque il apparaît de plus en plus que la Chine veut s'intégrer ne veut pas s'intégrer dans le système tel qu'il existe actuellement et est à une tentation de le modifier, on va dire, à son profit. C'est-à-dire que la Chine supporte plus trop que ce soit le dollar qui soit la première monnaie mondiale. La Chine ne supporte plus que ce soit les Américains qui... soit chargé de la sécurité en Asie, se charge de la sécurité en Asie, etc., etc. Donc, il y a un assez net mouvement qu'on perçoit dans beaucoup d'initiatives chinoises pour s'opposer à l'ancien système qui ordonnait le monde.
Alors, à l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012, il s'avère qu'il ne sera pas le Gorbatchev chinois. Est-ce une bonne nouvelle pour la Chine et pour le monde ?
C'est difficile de dire si c'est une bonne nouvelle, mais ce qui est certain, c'est qu'en effet, l'expérience de l'effondrement de l'URSS était dans toutes les mémoires chinoises, puisque au moment où l'URSS s'effondrait, et au moment où avait lieu le drame de Tiananmen, M. Gorbatchev lui-même était en visite en Chine. Les Chinois n'ont pas oublié ça. Et pour les Chinois, et pour le Parti communiste chinois, je veux dire, Gorbatchev n'est pas un héros. Gorbatchev est celui qui a provoqué la chute de l'Empire soviétique. Et donc toute la classe politique chinoise maintenant a les yeux fixés sur ce souvenir. Et comme en effet la Chine est actuellement à un grand tournant où beaucoup de défis s'accumulent, il est à peu près certain que parmi toutes les mesures prises par le gouvernement de Xi Jinping et l'actuel bureau politique, il y en a une qui saute aux yeux, c'est qu'il se protège des influences occidentales, en tout cas celles qui ont provoqué la chute de l'Union soviétique, déjà très fragilisée par des problèmes internes et des fortes tensions avec toutes les républiques soviétiques. Donc on a, et tous les satellites de l'Union soviétique à l'époque, donc on a très clairement à la fois en Chine actuellement la volonté de redresser la Chine, en tout cas de relever les défis qui sont socio-économiques et très importants, qui sont les questions des retraites, la question du système de santé, les dettes des provinces, les dettes des banques, le déficit global du système chinois qui atteint 27 000 milliards de dollars, c'est-à-dire presque trois fois le PIB de la Chine. En même temps, une très forte action pour lutter contre la corruption, à tel point que ce que fait actuellement le régime est quelque chose de totalement inédit depuis Deng Xiaoping, qu'on n'a jamais vu d'une telle ampleur. Mais en même temps, il est très clair que la Chine cherche à se protéger de plus en plus des influences occidentales et elle accable et elle punit très sévèrement les dissidents. Non pas ceux qui critiquent le système, parce qu'elle accepte beaucoup de critiques concernant par exemple la pollution, la corruption, etc., mais les dissidents qui critiquent le système tel qu'il est, c'est-à-dire la prévalence du Parti communiste chinois, sont très durement réprimés.
Alors justement, le concept de droit de l'homme véhiculé par l'Occident et l'Amérique ne pourrait-il pas être le cheval de Troie du régime chinois ?
C'est ce que pensent un certain nombre de sinologues américains en particulier. Vous savez qu'au mois de mars, M. David Chambaud a publié un article dans le Wall Street Journal dans lequel il disait que le Parti communiste était entré dans la phase finale de son existence parce que, en fait, la force, la puissance, la solidité qu'il exprime ne cache qu'en fait une fragilité interne. Alors ces déficiences, ces fragilités ont été analysées par des intellectuels chinois eux-mêmes, comme Zhang Lifan, par exemple, qui disait si le parti ne se réforme pas dans les 10 ans qui viennent, ça ne sera plus la peine de parler de son avenir, parce qu'il n'existera plus. Il y en a d'autres qui ont eu des appréciations tout à fait aussi pessimistes, comme Zhang Musheng, qui lui est un intellectuel historien qui s'est focalisé sur la corruption du système et des élites. Et ça, je pense que ce qui est la grande fragilité du système chinois actuellement, c'est le fait que il est à la fois il a entrepris un nettoyage des écuries d'Ogias et une lutte fantastique contre la corruption, mais qu'en même temps, comme tout ça se fait en dehors du droit, c'est-à-dire au sein même du parti, c'est-à-dire que le parti est à la fois juge et parti, en effet, il y a là une fragilité considérable qui très rapidement pourrait tourner à une lutte de clans et donc à quelque chose qui pourrait à nouveau se rapprocher de tumultes graves en interne. Et ça, c'est une possibilité. Mais il y a d'autres visions et d'autres possibilités. C'est celle du fait que le système chinois tel qu'il existe actuellement se projette beaucoup vers l'ouest, et donc se projetant vers l'ouest, il a encore beaucoup de marge de manœuvre, et une autre partie de ces marges de manœuvre consiste à se projeter tout à fait à l'extérieur avec les actuelles grandes stratégies des nouvelles routes de la soie, qu'elles soient maritimes ou terrestres, où la Chine développe des coopérations importantes avec les pays d'Asie centrale, avec le Moyen-Orient, avec avec l'Amérique du Sud et avec l'Europe, en particulier l'Allemagne, la France, les pays d'Europe de l'Est, l'Angleterre, etc. Donc, c'est très difficile de prévoir un accident politique interne. Le risque existe. On ne peut pas le nier. Intimement, je suis convaincu que le parti ne s'économisera pas une secousse, quant à dire qu'il disparaîtra, comme le dit David Chambaud, je n'en suis pas si sûr, parce qu'il a encore beaucoup de ressources. Je rappelle simplement qu'à la fin des années 90, un certain nombre d'analystes avaient prévu que la Chine s'effondrait. En particulier, Gordon Chang avait, au moment où la Chine s'apprêtait à rentrer dans l'OMC, avait écrit un livre qui a fait, à ce moment-là, eu pas mal de succès, qui s'appelait « The Coming Collapse of China ». Et ce qui s'est passé, c'est très exactement l'inverse. C'est-à-dire, à partir du moment où la Chine est rentrée dans l'OMC, elle a accéléré sa montée en puissance. Et donc, il faut se méfier quand on développe des prédictions aussi pessimistes. Alors, en France, il y a un certain nombre de gens qui, comme Marie-Claire Bergère, par exemple, qui prend le contre-pied de cette prévision. Pour elle, le Parti communiste chinois, certes, subira des secousses, mais il est suffisamment fort, il a suffisamment d'emprise sur l'ensemble de la société pour pouvoir affronter tous les défis.
Mais alors, la lutte engagée par Xi Jinping contre la corruption dont nous venons de parler, c'est quand même un puissant fond, car il faudrait aussi faire disparaître le capitalisme d'État pour que ça fonctionne.
Oui, disons que une des fragilités du système, c'est précisément le fait que quand M. Xi Jinping développe cette lutte contre la corruption, il ne le fait pas au nom du droit, il le fait au nom de la morale. Ce qui est finalement assez naturel, parce que en Chine, souvent, la justice est articulée autour de la morale et non pas autour du droit. Pour l'instant, cette très violente campagne contre la corruption est assez bien reçue par le régime et les Chinois. Il y a des effets pervers, en particulier le fait que aucun fonctionnaire, aucun chef de grand groupe, aucun directeur ou président de grand groupe, aucun directeur de banque n'est à l'abri d'un coup de la campagne anticorruption qui était actuellement dirigée par Wang Qishan, qui est le président de la commission de discipline du parti, un homme remarquable. Ça crée en effet un certain immobilisme dans l'administration, parce que tout le monde a peur. Donc c'est quelque chose qui vient en obstacle aux réformes, puisque pour réformer, il faut que les gens soient un peu libres de penser. Donc si la plupart des gens ont peur, on a affaire à un blocage du système. Donc ça, c'est en effet un effet pervers. Mais le plus grave, c'est que, premièrement, cet effet, on a un système qui se fait en marge du droit, on a une action qui se fait en marge du droit, et deuxièmement, il commence à y avoir à l'intérieur du parti des voix qui s'opposent à cette politique en disant que, au fond, c'est le parti lui-même qui génère la corruption. Alors, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Une jeune chercheure de l'Académie des sciences sociales du Shandong, de Qingdao, que je connais bien, a récemment, il y a quelques mois, publié un rapport dans lequel elle explique que la manière dont sont traités les fonctionnaires, la manière le système de promotion, qui est un système de cooptation, pousse à la corruption. Et au fond, avant de punir les gens, ce qu'il faudrait, c'est réformer le système lui-même. Alors à partir de là, on peut se demander si la persistance d'un parti unique n'est pas le vrai problème.
Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on peut dire que la Chine s'achemine vers une complète acceptation des lois du marché, pourtant dictées aujourd'hui par les Américains ?
Alors, Comme souvent, en Chine, on a à peu près tout et son contraire. La Chine a récemment signé un accord de libre-échange tout à fait étonnant avec l'Australie, puisqu'elle a accordé à l'Australie la clause de la nation la plus favorisée et elle a accepté la concurrence des banques, des services australiens à l'intérieur du système chinois qui jusqu'à présent était extrêmement protégé. Vous savez que les banques chinoises sont un bastion féodal, très conservateur de l'ancien système que l'actuel bureau politique cherche à faire évoluer. Ces banques n'étaient d'ailleurs pas des banques, ne sont d'ailleurs pas vraiment des banques commerciales au sens strict, puisque ça ne sont que des pourvoyeurs de crédit, et le service qu'elles offrent, comme par exemple la rémunération de l'épargne, est d'une qualité très inférieure à ce que pourraient offrir des banques privées chinoises ou des banques étrangères. C'est pour ça que d'ailleurs le système a très peur de la concurrence étrangère, en particulier dans les services bancaires. Mais l'accord de libre-échange qui a été signé avec l'Australie signale une ouverture importante dans ce domaine, mais en même temps, vous avez exactement, de même que les Américains et les Chinois ont signé un accord sur les technologies de l'information, vous avez l'effet pervers contraire, conservateur, où on perçoit que les sociétés high-tech américaines sont presque toutes harcelées en Chine, accusées la plupart du temps, d'enfreindre la loi sur les monopoles. Et donc vous avez les grands fabricants de microprocesseurs, par exemple, ou Microsoft, ou Apple, etc., qui sont en permanence sujets à des harcèlements, qui, au point que dans certaines sociétés, on commence à se demander si ça vaut bien le coup de rester en Chine, quoi. Donc comme toujours, dans cette affaire, dans la relation entre la Chine et l'Occident, cette volonté de quelque chose qui ressemble à un acte manqué en quelque sorte, c'est-à-dire cette volonté de ressembler à l'Occident, cette volonté de s'adapter aux règles de l'Occident et aux règles du marché, et en même temps, tout comme l'avait fait en 1900 l'impératrice Cixi, une sorte d'ambiguïté qui a fini par qui s'est terminée par la guerre des Boxers, qui était puissamment conservatrice et très très opposée à toutes les réformes. Donc, ces deux facettes de l'évolution de la Chine continue à exister. La volonté d'ouverture, imiter sur l'Occident la loi du marché, et puis cette tendance conservatrice lourde qui existe toujours et qui est d'ailleurs représentée au comité permanent par plusieurs personnes qui sont actuellement au pouvoir. Zhang Zhejiang, par exemple, qui est le numéro 3 du régime, est un homme qui a été formé en Corée du Nord, qui a étudié en Corée du Nord. Vous en avez un autre qui s'appelle Liu Yunshen, qui est donc le grand maître de la propagande. C'est lui qui développe les idées actuellement de protection contre les influences étrangères, etc. C'est lourdement conservateur. Par exemple, le Premier ministre Li Keqiang est totalement impliqué dans la réforme du système financier chinois et en même temps dans la suppression, en tout cas dans la diminution des dettes des provinces, etc. Vous avez des gens comme Zhang Zhejiang, qui est donc toujours partisan de l'économie planifiée des grands groupes, et quelqu'un comme Liu Yongshan, qui est donc partisan de la fermeture et du contrôle d'Internet.
Donc on a le choix, on verra ce que donnera l'avenir. Que penser de la création récente des deux organismes bancaires par la Chine destinés à concurrencer la mondialisation américaine sous le signe du dollar ?
Quand on regarde la tendance actuelle de la Chine, est en effet de faire jouer de plus en plus le rôle de monnaie de référence au renminbi. Et donc la Chine a mis en place par sa grande banque ICBC, la banque commerciale qui est représentée en France ici, et qui est donc chargée de gérer l'utilisation du renminbi dans les transactions commerciales, elle a mis en place tout un système qui fait que, et elle a signé des accords avec plusieurs dizaines de pays pour faire des échanges en monnaie chinoise ou en monnaie locale pour concurrencer le dollar. Mais quand on regarde pour l'instant le rapport des forces, vous vous rendez compte que plus de 60% des échanges mondiaux se font toujours en dollars et que la part du renminbi dans les échanges mondiaux est autour de 7 à 8%.
Certes, mais ça peut monter. Que signifie le raidissement de la Chine envers Hong Kong, comme on a pu le constater à l'automne 2014 lors de la révolution des parapluies ?
C'était inscrit dans le système, si vous voulez. Vous avez un système très ouvert à Hong Kong et en fait un système relativement fermé en Chine. Et cette situation a été caractérisée par le fait qu'on avait affaire à un pays, deux systèmes. La Chine tente de gérer cette contradiction comme elle le fait toujours, en expliquant qu'elle fait avancer la région administrative spéciale de Hong Kong vers la démocratie et vers le suffrage universel. Parce que c'était inscrit dans les accords signé par la Chine avec la Grande-Bretagne au moment de la rétrocession en 1997. Sauf qu'elle a sa propre vision du suffrage universel qui consiste à tenter de contrôler les candidats. Et donc, ce qui supprime une grande partie de la, du sens même du suffrage universel. Alors évidemment, vous avez à Hong Kong même une opposition contre les mouvements de protestation des étudiants qui disent que, après tout, la Chine a fait un effort puisque elle accepte le suffrage universel. Et en se raidissant, on allait provoquer un raidissement chinois. Alors, c'est ce que dit aussi le Parti communiste chinois. Mais au fond, ça traduit très, très, très simplement la peur que, en fait, un véritable système, un suffrage universel qui s'exprimerait à 100% à Hong Kong pourrait avoir une influence en Chine et déstabiliser le système. C'est donc la grande peur du, c'est la grande peur que la Chine a de Hong Kong, qu'elle a aussi de Taïwan, bien sûr. Donc le problème est un problème qui est pour l'instant très difficile à gérer pour le Parti communiste chinois. Et on ne peut pas savoir comment ça va évoluer. Ce qui est certain, c'est que la Chine est dans une contradiction. Elle utilise tous les moyens pour faire en sorte que le mouvement d'opposition actuel soit au plus bas niveau possible. Alors, il est possible que dans les mois qui viennent, de nouvelles tensions naissent parce que récemment, le Conseil législatif s'est opposé aux propositions chinoises et a rejeté la loi chinoise avec un incident qui s'est produit un peu étrange où tous ceux qui auraient pu voter pour la Chine sont partis suite à une fausse manœuvre d'un député pro-chinois, et le résultat c'est qu'il y a presque une trentaine de députés qui ont voté contre, alors seulement 8 qui étaient présents qui ont voté pour, les autres étant partis suite à une fausse manœuvre. Donc pour l'instant le chiffre le résultat du vote ne veut rien dire, mais même si les députés qui avaient voté, qui auraient pu voter contre étaient présents, la loi aurait été rejetée puisqu'il aurait fallu 2/3 pour que, puisque c'est un changement constitutionnel, il aurait fallu 2/3 et il n'y avait pas 2/3 des voix pour la réforme chinoise.
Ce qui se passe en ce moment en mer de Chine pourrait-il être les prémices d'une éventuelle guerre entre la Chine et les États-Unis ?
Je ne crois pas. Si vous voulez, la Chine. Il est vrai que depuis Xi Jinping, la Chine a durci sa position en mer de Chine. Il y a quelques années, la Chine hésitait à dire que la mer de Chine faisait partie de ses intérêts vitaux. Récemment, elle a publié un livre blanc dans lequel elle exprime précisément son intérêt et ses droits en mer de Chine du Sud. Elle a des droits, bien sûr, elle en a autant que les autres, mais la Chine s'en attribue beaucoup plus que les autres, puisque vous savez que sa ligne en 9 traits, qui est la ligne qui avait été déjà publiée par Chiang Kai-shek en 1947, à l'époque cette ligne en 9 traits en faisait 11. Depuis, la Chine a supprimé 2 traits dans le golfe du Tonkin. Cette ligne en 9 traits s'approprie en 90% de la mer de Chine du Sud, qu'elle considère comme une mer de Chine intérieure. Donc ça agace beaucoup de pays riverains, et en particulier ceux qui ont des conflits territoriaux avec la Chine, c'est-à-dire le Vietnam, les Philippines, Brunei et la Malaisie. Ces quatre pays-là sont des pays qui sont en conflit avec la Chine, les deux plus sévères conflits étant celui avec le Vietnam et celui avec les Philippines. Les Américains, dans ce jeu-là, ont toujours cherché à rester sur l'idée qu'ils ne défendaient pas, ils ne prendraient pas parti dans les querelles territoriales, mais uniquement pour défendre la liberté de navigation. Or, récemment, je crois que c'est au printemps, le président Obama a pris parti contre l'extension par la Chine et par le génie civil chinois, le génie militaire chinois de un certain nombre d'îlots dans les Spratleys. Alors bon, la Chine n'est pas le seul à avoir fait ça, d'autres pays l'ont fait, mais la cadence à laquelle la Chine le fait est considérable, surtout dans les litiges qui ont été portés au tribunal du droit de la mer, à La Haye, par les Philippines et le Vietnam. Cette extension des îlots modifie les données du problème. C'est-à-dire que quand on a affaire à un récif immergeable, il ne peut pas générer de zone économique exclusive ou d'eau territoriale. En revanche, si on transforme ce récif par des apports de terre en îlots non submersibles, il commence à devenir, selon la loi de la mer, une île qui peut générer des eaux territoriales. Alors là, évidemment, et c'est contre ça que les Américains se sont énervés, puisque ça change les données même du jugement de la Cour internationale. Alors, est-ce que ça va provoquer un conflit? Je ne crois pas, parce que aux États-Unis, il existe une mouvance très influente. Alors, bien sûr, il y a toujours les conservateurs et puis les républicains, le Pentagone, qui cherchent à répondre aux défis chinois par la menace de la force. Mais en même temps, vous avez tout un mouvement qui date de Brzezinski, d'ailleurs, qui dit que la Chine n'a aucun intérêt, les États-Unis n'ont aucun intérêt à entrer en conflit avec la Chine. D'ailleurs, on ne voit pas trop comment, puisque je rappelle quand même que la Chine est dotée de l'arme nucléaire et que ses missiles stratégiques peuvent atteindre l'autre côté du Pacifique. Donc, les Américains ont en effet beaucoup, beaucoup d'inquiétudes et ne veulent pas entrer en conflit direct avec la Chine. Et donc, ils sont entre deux feux actuellement, celui de réagir à un défi qui est celui de l'extension territoriale des îlots par la Chine, en même temps à l'appel de leurs alliés, qui sont les Philippines, et actuellement épisodiquement le Vietnam, qui lui joue un jeu très différent de celui des Philippines, qui consiste à utiliser l'Amérique pour mettre la Chine en porte-à-faux. Ils sont donc tentés par une intervention plus directe, et en même temps, ils ont bien compris que là, il y a un risque de dérapage considérable. Ceci étant dit, alors que les Américains ont amené autour des îlots, par mesure de dissuasive, des bateaux de guerre importants, très rapides, blindés, avec des hélicoptères, des drones, des embarcations à l'intérieur, des radars, etc., des missiles. Les Chinois n'ont jamais approché leurs îlots avec des bateaux de guerre. Pour l'instant, tout ce que la marine chinoise a mis en œuvre autour de ces questions de mer de Chine du Sud, ce sont des navires côtiers, de surveillance côtière, et on les reconnaît, ce sont de gros bateaux blancs marqués République de Chine, surveillance des côtes. Donc, on a affaire à une sorte de jeu de rôle où, en quelque sorte, il semble que la Chine teste la volonté des États-Unis de rester dans le Pacifique d'obliger les Américains à se poser la question suivante: allons-nous faire la guerre à la Chine pour un petit îlot?
C'est vrai que la question mérite d'être posée. Êtes-vous d'accord avec Régis Debray quand il dit que la fusion des différences dans le global market est une utopie et un trompe-l'œil?
Je suis assez d'accord avec cette vision, qui est une vision qui s'oppose à ce que les Américains souvent appellent la loi du marché, et qui est d'ailleurs exprimée actuellement de manière très inquiétante par deux tentatives d'accord avancées par les Américains pour, en fait, imposer leur domination économique au monde. C'est le Trans-Pacific Agreement et le pacte transatlantique dont on commence à parler beaucoup en Europe actuellement, qui est une sorte de déification du marché par-delà les juridictions nationales. Assez souvent, je me suis trouvé du côté de la Chine quand elle s'opposait aux lois du marché, parce que, poussée à bout, la loi du marché devient évidemment la loi de la jungle, et toujours la loi du plus fort en tout cas. C'est exactement ce que les Américains ont dans la tête en propulsant dans le Trans-Pacific Agreement, pour lequel d'ailleurs ils reçoivent l'opposition des Japonais, ce qui n'est pas rien, et aussi le Trans-Atlantic, le pacte transatlantique, où on voit que l'article qui est le plus inquiétant, c'est la prévalence du profit. C'est-à-dire que, par exemple, Philip Morris peut faire de la publicité en Europe, ou bien les lois européennes peuvent interdire la publicité de Philip Morris, à condition que Philip Morris puisse continuer à faire des bénéfices. Donc le bénéfice est érigé, le bénéfice des grands groupes est érigé en condition qui est au-dessus des juridictions nationales. Donc c'est contre ça qu'un certain nombre de pays asiatiques, pour l'instant le Japon, les Philippines, l'Indonésie, se sont élevés au moment de cette signature, qui pour l'instant n'a toujours pas eu lieu, et puis également un certain nombre de pays européens, en tout cas pas des pays, parce que les négociations avec l'Europe sur ce sens-là, dans ce domaine-là, sont extrêmement opaques, ou en tout cas mal documentées. Et je dois dire que quand la Chine se dresse contre cette prévalence du marché, je pense que, puisque l'activité économique englobe aussi des questions sociales, des questions politiques, je pense qu'on ne peut pas laisser le marché décider de tout. Et je pense que M. Debré a raison.
François Thérèse, merci.